Bonjour. Bumba, territoire situé dans le nord équateur, était connu pour sa production de riz de montagne. Les mamans qui nous écoutent connaissent très bien le riz qu'on appelle le riz de Bumba. Des tonnes de riz étaient produites dans ce territoire et transitaient chaque jour par Mbandaka pour être vendues à Kinshasa, à Kisangani, sa remontée par la voie ferrée qui aujourd'hui est impraticable, soit dit en passant. On va faire le point dans quelques instants. Et puis on reste dans le riz, comme vous le savez, le riz, mais oui, peut-être que vous l'avez mangé ce matin, hier soir. 2004 a été déclaré année internationale du riz par l'Assemblée générale des Nations Unies. Thème choisi, valorisation du riz local. À Kinshasa, on a lancé hier une campagne de promotion du riz local. Nous écouterons un reportage du joli Manivoto. Vous avez peut-être un petit frère ou une petite sœur qui est à l'école primaire, presque finaliste, et quand vous lui demandez d'écrire son nom, ça peut vous surprendre de voir qu'il n'est même pas en mesure d'écrire son nom. On a constaté cette déperdition scolaire et au niveau du ministère des Affaires sociales, ils ont lancé un programme de rattrapage, un programme de reboostage, si vous voulez, du niveau scolaire de nos enfants. C'est un programme pour 3 ans. On en saura davantage dans quelques instants. Et puis, enfin, pour terminer, nous irons à Kalemie où les marchands du marché de la Lukuga se plaignent de la destination des taxes qu'ils payent régulièrement. En effet, ce marché tombe en ruine alors que les marchands payent régulièrement leurs taxes. Ils pointent du doigt les administratifs. On fera un point là-dessus. Vous savez presque tout, du moins en flash, sur le magazine qui est le vôtre aujourd'hui. Merci de participer à la réalisation de ce magazine qui vous concerne, qui nous touche dans notre vie au quotidien. Participez en appelant au 081 890 68 90 si vous nous appelez de la République démocratique du Congo ou du Congo-Brazzaville. Appelez-nous au 00 243 81 890 68 90 si vous nous suivez dans un coin du monde, si vous êtes branché sur Internet évidemment, parce que nous y sommes sur le www.radioutapi.net ou écrivez action@radioutapi.net. Je suis Walter Moloney.
Okapi. Okapi en Mbandaka sur 103 FM.
Près de 3 milliards de personnes partagent la culture, les traditions, les potentiels inexploités du riz. Dans les villages reculés de l'Asie du Sud-Est, les agriculteurs comparent toujours un grain de riz à un grain d'or. Les habitants du Japon moderne considèrent le riz comme le centre même de leur culture. Le long de la rivière Sénégal en Afrique de l'Ouest, les villageois accueillent leurs visiteurs avec des plats gastronomiques au riz. Où qu'ils soient cultivés, comme le riz figure dans l'alimentation quotidienne des peuples. Lors des festivals religieux et des réceptions de mariage, dans des peintures et dans des chansons. Ainsi, le riz est un aliment, mais bien plus qu'un aliment. Il représente la société, la culture, la politique, les affaires, la beauté des paysages, les peuples au sein de leur communauté. En somme, le riz, c'est la vie. Il était il y a quelques années à Bumba, territoire du Nord Équateur. Aujourd'hui, les plantations de riz sont abandonné. On va faire le point de la situation dans cet élément, ce reportage, si vous voulez, que nous propose notre confrère Askanzi Gyatayoro.
Le riz de Bumba, de par sa qualité, s'est imposé dans les habitudes alimentaires des Équatoriens. Le Mbandaké, les Quinois et les Boyomains en savent quelque chose. Ces riz se distinguent du riz importé du Ghana, de la Chine ou de la Thaïlande. Beaucoup de Congolais qui s'adonnent au commerce des riz de Bumba en gardent un bon souvenir. Un commerçant rencontré au port de l'Onatra Mbandaka en provenance de Bumba témoigne.
J'ai fait les navettes Bumba Mbandaka. J'achète le riz des riseries de Bumba. Moi, je viens avec ça ici à Mbandaka. Moi, je prends vraiment les bénéfices parce que moi, les riz sont appétissants et puis très goûts, vraiment sont très préférés ici à Mbandaka. Je gagne aussi les miens qui est ici à Sokopla. Nous sommes les coopérants de Sokopla. Donc, les autres gens qui viennent ici, vraiment, c'est goût. Je gagne quand même quelque chose pour moi.
Par ailleurs, au dire de certains, la culture et la commercialisation des riz à Bumba posent de sérieuses difficultés. Plusieurs paysans, en dépit des caprices de la culture de ces produits, continuent à produire aujourd'hui des quantités importantes de riz comme par le passé. Mais ces cultivateurs, basés plus à l'intérieur, ont de la peine à écouler des sacs de riz padi vers le centre pour le décorticage. En effet, plusieurs axes routiers sont dans un état de délabrement avancé, ce qui ne permet pas aux véhicules de circuler à tout moment et donc d'évacuer les produits. Autre difficulté, toutes les sociétés qui disposaient à Bumba des grandes machines de décortiquage, entre autres Sibezaï, Grisa, Sokam, sont aujourd'hui tombées en faillite. Ces machines ne fonctionnent plus. Conséquence, d'autres paysans préfèrent décortiquer les riz padis d'une manière artisanale. Témoignage.
Il y a une carence au niveau des engins. S'il faut dire des machines, les problèmes de décortiquage. Si vous n'avez pas une machine, une autre probabilité c'est quoi? De prendre un mortier pour piler ça. Alors ça demande, c'est un système là, il peut être tellement très archaïque. Le deuxième aspect c'est que il y a le problème des transports. Pour amener peut-être ces riz à Bumba, là où il y a des machines pour des décortiquages. Ils trouvent un peu de difficultés. Il y a des fois, d'autres emportent ça par des dos, par des têtes, des charrettes, des bicyclettes. Les paysans, je peux dire, ils cherchent peut-être à avoir ne fût-ce que 3 ou 4, 5 vélos, s'il y a assez de moyens, de telle façon que ces vélos puissent lui aider à faire l'évacuation pendant la campagne.
À Bumba, ce sont des décortiqueuses de particuliers qui aident tant soit peu des riziculteurs, y compris d'autres acheteurs qui viennent de partout. À signaler que deux systèmes de culture des riz sont pratiqués à Bumba. Il y a d'une part les riz irrigués utilisés au centre de Bumba et d'autre part les riz de montagne pratiqués par les paysans à l'intérieur du territoire. Pour beaucoup de commerçants à Mbandaka, la relance des activités agricoles devrait passer d'abord par la mécanisation de l'agriculture, ce qui doit faciliter l'augmentation de la production pour satisfaire les besoins des consommateurs, non seulement en RDC, mais également à l'extérieur.
Askazi Gatero nous a fait un portrait malheureusement terni de ce qu'on pourrait appeler l'âge d'or de la production du riz à Bumba, dans la province de l'Équateur. Voilà, un aliment qui est consommé tous les jours. Je ne sais pas, entre nous, c'est un secret de chacun qui nous écoute. Je pose la question, qu'avez-vous mangé hier ou ce matin? En tout cas, dans beaucoup de cas, c'est peut-être le riz, hein? Je ne sais pas, mais moi, je suis dans le cas, parce que je l'ai consommé hier. Voilà, nous allons avoir un peu plus de détails sur les causes, finalement, de la baisse des productions du riz à Bumba. Et ce sera avec un responsable, un agent du programme national du riz qui est sur place à Mbandaka pour qu'il nous explique ce qui s'est passé et pourquoi on ne peut pas continuer à produire le riz. En tout cas, un spécialiste des questions environnementales qui m'a renseigné avait dit que le riz de Bumba était beaucoup plus nutritif que d'autres qualités de riz qui, ma foi, sont produits en utilisant des produits peut-être chimiques. Il y a aussi du riz qui sont des organismes génétiquement modifiés et donc qui ont perdu le naturel qui se trouve dans un riz produit de façon tout simplement naturelle comme on le fait au niveau d'un Mbandaka. Là, c'est pas le débat d'aujourd'hui, mais c'était juste un petit flash d'information sur cette question du riz et particulièrement la qualité du riz que nous consommons.
Okapi en Mbandaka sur 103 FM.
Okapi Action, le premier magazine, le premier sujet de notre magazine, c'est consacré au riz, le riz qui était produit à l'époque à Bumba. Est-ce que pourquoi est-ce qu'on ne le produit plus aujourd'hui? C'est ce que nous allons chercher à savoir tout à l'heure avec Monsieur Essoukou, qui est un des responsables au niveau du programme national de riz à Bumba. On va l'appeler depuis Bumba. Dans quelques instants, laissez-nous vous dire que le riz, c'est un aliment très prisé dans notre chaîne alimentaire. On consomme beaucoup le riz. Il suffit de regarder les enfants lorsque la maman leur présente mais au riz. En tout cas, on ne le laisse jamais. On le mange avec beaucoup d'appétit. On me dit que c'est possible de parler à Monsieur Essoukou. Monsieur Essoukou, bonjour.
Bonjour, messieurs.
Voilà, moi je suis Walter Molondi, journaliste à Radio Okapi. Je suis heureux de vous entendre. Vous êtes un des responsables au niveau du programme national de riz. Vous êtes actuellement à Bumba. Lorsqu'on parle de riz de Bumba, c'est au passé. Pourquoi est-ce que Bumba ne produit plus le riz qui est très prisé?
Ok, d'emblée, je dois vous dire que Bumba produit du riz. Mais à un moment donné, quand il y a eu les événements que nous connaissons, allusion faite à la dernière guerre, il y a eu un peu baisse. Mais en ce moment où je vous parle, il y a reprise. Il y a reprise, ça dit que tout le monde produit du riz. Mais nous, au niveau du PNR, comme la filière est riz, nous avons des problèmes d'ordre logistique, matériel et financier. Nous ne pouvons plus faire correctement notre travail. Mais sinon, je peux vous donner les statistiques qui remontent en l'année 2001. Bumba a produit 50 tonnes 21. Ce sont des statistiques que nous détenons de l'inspection agricole du territoire. En 2002, Bumba a produit 51 tonnes 634. Voilà un peu, monsieur.
Mais alors, vous avez dit que c'est on a produit, si on peut dire, en moyenne 51 tonnes entre 2001 et 2002. Quelle était la quantité, le tonnage que Bumba produisait avant la guerre?
C'est juste un peu moins là, parce que je n'ai pas les statistiques des années antérieures à avant la guerre. Je n'ai pas les statistiques de avant la guerre. Mais comprenez que quand il y avait coupure des communications au niveau des routes, pas de véhicules, les paysans étaient un peu découragés parce qu'ils n'avaient plus de motivation, ils n'avaient pas de preneurs. C'est-à-dire qu'il y avait que ça puisse chuter. Je n'ai pas les statistiques des années antérieures avant la guerre, s'il vous plaît.
Ok, vous avez soulevé, vous avez dit, et c'est avec bonheur qu'on a entendu cela, que actuellement il y a une reprise de la production de riz, mais qui se pose des problèmes logistiques. Quels sont les vrais problèmes logistiques auxquels sont confrontés les producteurs locaux?
Il y a deux volets. Au niveau du paysan, c'est-à-dire que les prix ne sont pas rémunérateurs parce que il y a absence de politique de prix au niveau gouvernemental. Les paysans ne sont pas motivés. Au niveau de matériel aratoire, les paysans ont longtemps manqué de matériel. Et maintenant, avec des interventions ponctuelles de la FAO et du FIDA, le paysan commence à se remettre. Tandis qu'au niveau du PNR, où je suis responsable, le problème d'ordre logistique, le matériel est très vétuste, hors d'usage. Ils ont largement dépassé la durée d'amortissement. Nous avons des problèmes de finances, donc ne tournez pas, c'est ça.
Oui, il y a quand même cet autre problème. On sait que le riz de Bumba, les grandes quantités étaient ou sont évacuées en principe par le fleuve Congo vers Mbandaka ou par la voie ferrée vers Akéti et j'en passe. Mais quel est l'état notamment de la voie ferrée?
Et actuellement, il y a la société CEPU qui a essayé de remettre un peu la route ferrée. Actuellement, il y a le camion rail qui part de Bumba vers Akéti et ça emporte aussi le riz vers ce côté-là. En dehors de la voie fluviale, il y a la voie ferrée qui est maintenant opérationnelle.
Mais au niveau de la voie ferrée, vous nous parlez d'un camion rail. Il n'y a pas de train de ce côté-là.
Et le train, en ce moment, non. Je vois le camion rail qui dépanne un peu les gens parce que tout n'est pas encore remis en ordre. Il y a eu une équipe sud-africaine qui est venue pour la relance, mais ce n'est pas encore chose faite. On se débrouille avec le camion rail, s'il vous plaît.
Vous avez parlé d'un appui ponctuel de la FAO, puis de l'Association internationale pour le développement. Est-ce qu'ils essayent quand même de résoudre quelques problèmes des producteurs locaux, notamment ce qui concerne le matériel aratoire?
Oui, justement, il y a quelques années passées, la première intervention FAO a porté sur 5 tonnes de semences de riz, IRAD 112. La deuxième intervention apportée sur le matériel aratoire, j'en suis consultant. C'est moi qui ai distribué à travers le territoire. Et dernièrement, il y a encore la FAO qui a intervenu par information auprès d'agriculteurs multiplicateurs de semences. FAO a retenu 23 associations qui sont maintenant en train de cultiver les semences. C'est-à-dire que c'est juste une nouvelle stratégie pour faire solution au problème des semences qui se pose avec acuité ici. Et le FIAR a lancé un programme de multiplication des semences sur le terrain avec trois structures dont je cite les noms, les centres de développement intégral, le PNR, le programme national et le diocèse de Lolo, bureau de développement diocésain à Lolo. Donc les trois se sont mis en œuvre pendant que je vous parle, les travaux de préparation de sol sont en cours.
Mais monsieur Essoukou, c'est vrai, bon, lorsqu'ils ont les semences, lorsqu'ils ont les terres, ils peuvent s'aimer sans problème, sarcler, j'en passe. Mais au moment, lorsque le riz devient paddy, qu'il faut le décortiquer, on a entendu un témoignage de quelqu'un qui se plaint du fait qu'ils n'ont pas de décortiqueuse à point et que donc ça se fait parfois à la main ou dans des mortiers.
C'est ça, nous avons une dizaine de riziers ici qui ont des décortiqueuses et qui ont une très petite capacité, avec des petites performances. C'est-à-dire qu'ils ont des problèmes parfois des pièces de rechange et le riz parfois est usiné, mais il n'est pas de qualité à cause de tout ce matériel qui n'est pas correct du tout. C'est pourquoi parfois quelqu'un peut être, il n'a pas tort, parce que quand on regarde le riz, il n'est pas très, très poli à cause du matériel qui n'est pas performant.
Vous avez parlé de l'absence de politique de prix au niveau du produit fini. Est-ce que vous, qui êtes au niveau du programme national de riz, qui connaissez les problèmes des producteurs paysans, avez fait des propositions concrètes pour que, au niveau, si vous voulez, du gouvernement ou même au niveau déjà de la province de l'Équateur, que l'on puisse se pencher sur cette question de telle sorte que les producteurs locaux puissent rentrer dans leurs droits et être ainsi motivés à continuer à produire?
Ok, je crois que le PNR à son niveau, ce qu'il fait, c'est d'aider les paysans à se regrouper. C'est pourquoi nous parlons, nous, au niveau du PNR, d'associations des paysans riziculteurs. À travers ces associations, nous faisons des thèmes techniques pour les apprendre à se regrouper et de façon à vendre bien leurs produits. Mais comprenez que tout n'est pas lié à ce niveau-là. Il y a des facteurs qu'on ne peut pas maîtriser qui font que le prix ne soit pas rémunérateur.
Qu'est-ce qu'il faudra faire, à votre avis, pour que les prix soient rémunérateurs?
Je pense qu'il y a beaucoup de facteurs. En premier lieu, il faudrait que les routes soient arrangées et que le gouvernement, il faut une politique de prix. Parce que, voyez, un pays comme la Côte d'Ivoire, à l'époque de, je cite, de M. Félix Houphouët-Boigny, il y avait une politique de prix. Voyez, c'est la guerre qu'il y a maintenant. La Côte d'Ivoire avait décollé avec le cacao, avec le café, à cause de la politique de prix, parce que le paysan, il trouvait son compte, il était très, très intéressé à faire la culture.
Je vais soumettre à votre appréciation la réaction d'un auditeur qui nous a appelé de Bukavu. Il s'appelle Mundi Shamba Sanforien. Je cite, d'abord il s'interroge, pourquoi le gouvernement ne fournit pas beaucoup d'efforts pour réhabiliter les routes de sorte que les commerçants puissent approvisionner tout le Congo. Pour lui, Mundi Shamba Sanforien, c'est juste une question de volonté de la part du gouvernement. Il pense que si toutes les routes étaient en bon état, on ne manquerait pas à manger. Comment réagissez-vous à ce point de vue de cet auditeur de Bukavu? Oui, un auditeur de Bukavu qui constate que le gouvernement ne fournit pas assez d'efforts pour réhabiliter les routes. Il pense que si les routes étaient réhabilitées, les commerçants, les producteurs auraient les moyens d'évacuer les produits et qu'on ne mourrait pas de faim au Congo. Comment réagissez-vous à ce point de vue de cet auditeur de Bukavu?
Ok, je puise un peu son point de vue dans la mesure où les routes, pour nous les agronomes et producteurs, c'est une première nécessité. C'est-à-dire que s'il y a les routes, les gens sont motivés à produire, et sachant que les produits ne vont pas traîner, ils vont être écoulés vers les centres de consommation, en l'occurrence Bumba. Et Bumba, comme il est relié à des grands centres tels que Mbandaka et Kisangani et Kinshasa, j'en passe, pourra avoir un intérêt pour la vente. Je pense que je puise un peu son point de vue, si les routes sont arrangées. Mais il faut retenir aussi le fait que nous, les Congolais, nous devons comprendre que nos commerçants doivent comprendre que parfois si l'État a des difficultés, ces commerçants doivent aussi se mobiliser pour aider l'État, pour prendre la part de l'État. Mais très malheureusement, c'est un problème de mentalité. Il y a des endroits où ça se comprend très bien, mais il y a des endroits où ce n'est pas bien perçu.
Une dernière question, j'étais de passage à Bumba au mois de mai, j'étais passé par Mbandaka aussi, et j'ai constaté à bord de la barge sur laquelle nous étions qu'il y avait pas mal de tracasseries administratives sur les producteurs ou les gens qui transportaient certaines denrées alimentaires et que cela aussi décourageait les producteurs. Est-ce que les problèmes persistent encore?
Oui, justement, c'est un problème qui rentre dans ce que nous avons appelé lors de l'atelier qui s'est tenu à Mbandaka au niveau de l'IREM. On a appelé ça la tracasserie, c'est-à-dire que ce sont des taxes qui sont un peu trop là, qui découragent le producteur de telle manière que parfois quand il produit, pour qu'il se rende vendre à Kinshasa par exemple, à Kisangani ou à Mbandaka, il se décourage parce qu'il y a un nombre impressionnant de taxes qui dépassent parfois le prix des ventes et le paysan se décourage parce qu'il ne trouve pas son compte.
Peut-être une précision par rapport à l'axe ferroviaire vers Akéti. Qui est-ce qui exploite le camion rail?
Il y a une société ici, là, CEPU, société de chemin de fer, où elle est, c'est un certain chargé d'émission, un certain Augustin Panamoyen qui est venu, qui a essayé de relancer la chose, et maintenant c'est chose opérationnelle. Ça aide un peu les gens à évacuer les produits dans le sens de Bumba vers Akéti ou de Akéti vers ici.
Ce qu'on peut dire sur ce camion rail, c'est que ce n'est pas un wagon normal tel que l'on connaît, mais c'est plutôt une reconversion d'un camion, vraiment un camion tel qu'on le voit, qui a été transformé en moteur à locomotive.
Exactement, ça c'est là ce que vous voulez dire.
Une ingéniosité, une imagination assez féconde des populations de ce côté-là, c'est ce qu'on peut retenir, non?
Oui, justement, c'est-à-dire que c'est une façon de les dépanner parce qu'il faut de mieux.
Bien voilà, Monsieur Essoukou, je rappelle que vous êtes ingénieur agronome, responsable du programme national de riz et que vous êtes en poste à Bumba. Je vous remercie d'avoir répondu à nos questions et de nous avoir redonné espoir sur la reprise de la production de riz au niveau de Bumba, ce grenier malheureusement presque oublié, mais qui est en train de ressusciter de ses cendres.
Merci
beaucoup et à très bientôt. Au revoir.
Okapi en Mbandaka sur 103 FM.
Okapi Action, après Bumba, nous allons rester dans le domaine de la production du riz. Nous le disions tout à l'heure en ouverture du magazine Okapi Action. 2004 a été déclarée année internationale du riz. Objectif, encourager un accroissement de la production rizicole, ainsi qu'un accès amélioré à cette récolte vivrière primordiale. Vous le savez, le riz nourrit plus de la moitié de la population mondiale, tout en faisant vivre des millions de personnes chargées de la production, du traitement et du commerce du riz. Le développement des systèmes de riziculture viables permettra d'éliminer la faim et de réduire la pauvreté tout en contribuant à préserver l'environnement et à assurer une vie meilleure aux générations présentes et futures pour qui le riz, c'est la vie. Hier, à Kinshasa, on lançait une campagne de promotion du riz local, commentaires et récits de Jolie Malivoto.
Le 16 décembre 2003, l'Assemblée générale des Nations unies a déclaré l'année 2004 comme étant année internationale du riz. À l'instar d'autres pays du monde, la RDC est également impliquée. Le riz et la vie est le thème retenu pour cette année. Pour le ministère de l'Agriculture et la FAO, cette année, l'accent sera plus mis sur la valorisation de la culture et la production du riz local. Justement, concernant cette valorisation, comment le ministère de l'Agriculture compte-t-il s'impliquer? Valentin Senga, ministre de l'Agriculture.
Le ministère de l'Agriculture agit à travers un certain nombre de programmes. Nous avons par exemple le programme PPTE, qui nous permet de distribuer les intrants agricoles, dont les semences de riz améliorées, c'est-à-dire des semences à haute potentialité technique, aux petits producteurs, pour justement faire en sorte que nous puissions devenir un jour autosuffisants en matière de la production du riz. Il faudrait absolument que, effectivement, en collaboration avec le ministère du développement rural, que nous puissions donc réhabiliter les voies des dessertes agricoles, parce que sans l'évacuation, il sera difficile un jour d'espérer d'atteindre l'autosuffisance alimentaire.
Le riz inondé et le riz pluvial sont deux types de riz cultivés dans notre pays, la RDC. Cependant, à Kinshasa, cette culture semble être oubliée à cause de l'abondance du riz importé sur le marché. En effet, les riziculteurs de Kinshasa ne savent plus à quel sens se vouer. Ils sont confrontés à de nombreuses difficultés. Ils nous en parlent.
Aménagement hydro-agricole, c'est-à-dire, pas bon si la biso, surtout premièrement, tu as un maïa ya tchango. Les yangues ont ma production la biso. Soba bon si maïwana, alors production et vous allez inonder avant la carte à ville à Kinshasa, dans l'eau sur la biso.
Bon, tu as un problème et une difficulté à la semence. Au biso, tu as les semences na biso. Mais moi, je vais sombrer à biso et zalité. Pour le moment, tu as fait cet exemple comme un chinois. Mais il y a des Chinois, mais il y a des effondres, mais il y a des bambous exacts. Tout ça, c'est un problème, moi, pour évacuer ma produit, ma produit agricole.
Du côté des vendeurs du riz, le nœud de problème réside plutôt au niveau de l'emballage. Faute d'emballage, en effet, les commerçants du riz local sont obligés d'utiliser les sacs du riz importés. Et cela cause souvent de confusion auprès des acheteurs qui ont du mal à les identifier. Explication de quelques vendeurs.
Différence des alliés à l'eau sonale au samoukile mususu pour mon l'eau soya biso moto l'on l'amboka ou puis l'eau son osso kozoli en ogou na mona oya biabamboka papaya et kokanakate ya biso rola mota ya pambo tie ou l'ité au lion kitoko et puis pesa la protéine ma casse collé kabalo soya papaya bon au moni biso toteka kaloso oya bilanga awa banda to banda on a 81 si l'eau et salara moi passe mouki batu mususu pour baïba kesali l'eau samboka na biso pour emballage penza et salité. Au moment que batu musu tango baya ka osolo bané o ezalo sona biso moko mboka azomala ke tozo tsaka na mbalaji moko o ezalo lo sa bapaya ezaka na mwa difficulté muke yango to senke soki mwa ezale ba koko sunga na biso toza na mbalaji ya biso moko penda ya mboka na biso tango mpaya yebike o ezali lo soto zolo na a condition penda ko tekela to tekela ke zabi ente to mona kaneti bato bazana ba boulangerie minene ba ipak wana botye ba mama poto ba tela bango place moko ya bien o ezomona na penda ke ezali ba mama o ba teka ba tia ka promotion ya biloko na bango mais pa ina biso pe na tozo mona bien te konso ko teke za kito kote mbula soke beti ko kima omoni ambala je pe to tia ka biloko pende surtout eza ya ngote.
Pour sa part, le ministre de l'Agriculture pense que ce problème d'emballage trouverait solution dans très peu de temps.
La solution la plus appropriée pour le moment, c'est d'inviter les producteurs d'emballage et de leur demander effectivement d'essayer de produire des emballages et sur lesquels on doit mentionner production locale. Et là, ça peut satisfaire la demande locale en emballage pour valoriser la production locale. J'ai même demandé à une équipe de mamans et même de PNR que nous puissions avoir une chance de travail pour éventuer tous les problèmes à ce sujet.
Pour tous, vendeurs et producteurs de riz local, leur souhait est de voir un jour la RDC inonder son marché en riz local, car notre pays a les moyens de produire suffisamment de riz pour faire face à la demande de la population.
Alors, PNR, monto a singele ko sa la promotion, ya loso na biso ba lokila biso même à ta marché moko. Batil biso place et tokote ka loso, loso izali mingi, loso izangite. Apanda sangwe ke nipa musulu na République démocratique du Congo, même na mikile ya poto, ke na Congo ba sala ka loso.
Et voilà, c'est sur cette voie, cette demande de ce producteur paysan de riz, c'est à Kinshasa que le récit de Jolie Maïvoto s'est achevé. Des réactions, des suggestions, de recommandations, n'hésitez pas à nous les faire parvenir, rappelez au 081 890 68 90. Dans quelques instants, nous recevrons Madame Lelo, elle est coordinatrice de la Journée internationale du riz. Avec elle, nous allons essayer de savoir ce que fait le programme national du riz pour promouvoir effectivement la production locale du riz en République démocratique du Congo. Et voilà, au Café Action, nous allons clôturer ce grand dossier sur le riz. On est parti des Bumba pour Kinshasa. Nous avons appris à travers le récit de Jolie Malivoto qu'à Kinshasa on produit le riz. On va avoir la confirmation tout à l'heure avec Madame Lelo. Madame, bonjour. Si vous pouvez parler un peu plus fort et vous rapprocher du micro, merci. Vous êtes coordinatrice de la Journée internationale du riz. Nous venons d'apprendre qu'à Kinshasa, on produit du riz. C'est où est-ce qu'on produit le riz à Kinshasa?
Bon, effectivement, à Kinshasa, on produit du riz dans les poules Malebo, c'est-à-dire le long du fleuve. Mmh. Dans les poules Malebo, nous avons une potentialité de 8000 hectares. Mmh. Mais actuellement, il n'y a que environ 2000 hectares qui sont exploités par des associations de riziculteurs. Si, par exemple, nos partenaires qui nous assistent pour le développement de la riziculture arrivaient à aménager les 8000 hectares, en tout cas, on pourrait arriver à satisfaire une grande partie des besoins du riz de la ville de Kinshasa.
Qui sont les riziculteurs qui sont sur les 2000 hectares exploités?
Bon, nous avons au total 14 chantiers rizicoles. Mmh. Je ne sais pas si je dois les citer ici.
Non, pas forcément, mais bon, c'est indicatif.
Ouais, nous avons 14 chantiers rizicoles avec une vingtaine d'associations que nous appelons APR, mmh. Association des paysans riziculteurs. Mmh. Donc au total, il y a environ 12 000 riziculteurs que le PNR encadre dans le poule Malebo.
Est-ce que vous avez une idée de la quantité qu'ils produisent par saison?
Bon, par saison, comme ils exploitent environ 2 000 hectares, bon, les rendements moyens chez le paysan, c'est à peu près 2 tonnes et demie. Donc, nous multiplions 2 tonnes et demie multipliées par 2 000 hectares. Mm-hmm. Donc, nous avons à peu près 5 000 tonnes de paddy.
Ok, d'accord. Mais il y a un problème, on l'a entendu tout à l'heure, on ne sait pas qu'il y a du riz qui est produit à Kinshasa, mm-hmm. et on a même entendu quelques producteurs paysans, effectivement, dans le poule, dire qu'ils voudraient que le ministère de l'Agriculture, à travers le programme national de riz, mm-hmm. dont vous faites partie d'ailleurs, puisse leur donner des emballages qui identifient le riz congolais qu'on voit un emballage avec des écrits riz congolais. Pourquoi il n'y a pas d'emballage?
Bon, le problème d'emballage, nous, les peineurs, bon, ça nous dépasse aussi parce que vous savez, actuellement, tous les services de l'État ont des difficultés. Hein, ils ont des difficultés de fonctionner. Effectivement, ces paysans-là, ils ont le problème d'emballage. Mmh. Parce qu'ils vendent leur riz avec les emballages de riz importés.
Ils recyclent les emballages de riz pakistanais, ils font des livres de riz d'ici, ouais. Et ils mettent là-dedans, mais il suffit seulement de regarder que la couture au niveau de la surface, c'est pas une couture faite par une machine vraiment industrielle de l'autre côté.
Okay.
Mais c'est le riz congolais, mais qu'on ne voit pas, mais on a l'impression que c'est le riz pakistanais.
Mais effectivement, ce riz existe sur le marché, donc c'est confondu, il y a eu une confusion de riz. Il y a certaines personnes qui croient que les riz que nous produisons ici, c'est les riz importés, parce que les semences que nous utilisons, ce sont les semences qui viennent aussi, par exemple, de la Chine.
Oui.
Ouais. Donc nous produisons la même qualité de riz que les riz importés. Alors, quand ces mamans produisent leur riz et qu'elles le mettent sur le marché, vous voyez qu'il y a une confusion.
C'est un problème quand même au niveau du programme national de riz, que nos productions puissent porter l'étiquette des pays étrangers.
Ouais,
et c'est votre responsabilité, ça.
C'est un problème réel, mais je crois que hier, les autorités étaient sur place, ils ont entendu les doléances des producteurs. Je crois qu'il y aura une solution dans les jours qui vont venir.
Il y a une maman qui a fait allusion à l'échoppe que la boulangerie des mamans poteaux a construite pour les mamans qui revendent le pain, et que c'est bien visible. Si vous voulez acheter du pain, ben vous savez, Bandal, la route à Sousa-Marin, Sayo, qu'est-ce que j'ai dit, Sayo, vous savez que vous trouvez là, pardon, des échoppes pour vendre du riz. Ils demandent qu'ils puissent avoir un pavillon pour eux ou un endroit où ils peuvent vraiment vendre le riz, et comme ça on sait voir que c'est le riz congolais.
Ouais. Bon, ces mamans vendent le riz devant le PNR, devant l'enclos du PNR.
Où se situe le PNR?
Le PNR se situe au quartier 7, en G.
Oui.
Ouais. Derrière la station Shell.
Mm-hmm.
Ouais, c'est là.
C'est loin pour tout le monde. Tout le monde ne peut pas aller de ce côté-là.
Bon, ces mamans préfèrent vendre leur riz dans ces coins-là parce que quand les producteurs arrivent avec leurs produits, ils décortiquent sur place au PNR, et ces mamans ont la facilité d'acheter sur place et revendre.
Mmh.
Et tous ceux qui ont l'habitude de consommer les riz produits localement, en tout cas, ils savent que ces riz est vendu au PNR. Ils préfèrent aller acheter le riz au peineur.
Il est de très bonne qualité, c'est pas des OGM, c'est pas des organismes génétiquement modifiés.
Non, non.
Mais il y a un problème de visibilité de cette production. On a entendu avec votre collègue qui se trouve à Bumba, qui nous a dit qu'ils ont un problème de décortiqueuse, que parfois on utilise les mortiers ou des méthodes purement traditionnelles pour sortir le riz du paddy. Est-ce qu'au niveau du PNR ici, vous disposez des équipements, de l'outil nécessaire pour faciliter la tâche au producteur?
Bon, au PNR en tout cas, du côté décortiquage du riz, il n'y a pas de problème. Parce que nous avons au total 3 décortiqueuses qui servent le producteur. Et puis dans les différents chantiers, il y a aussi les décortiqueuses qui ont été fournies par certains partenaires qui interviennent dans la filière riz. Et puis encore, au niveau du PNR, nous avons une grande usine du riz. Mais malheureusement, cette usine n'est pas opérationnelle.
Pourquoi?
Compte tenu de la quantité du riz qu'on produit ici à Kinshasa.
C'est quoi la quantité? Elle est suffisante?
La quantité est insuffisante. Parce que cette usine, pour fonctionner, il faudrait sa capacité de 8 tonnes par heure.
Mm-hmm.
8 tonnes par heure. Alors, Kinshasa n'a pas la capacité de fournir une quantité aussi importante.
Mais pourquoi vous n'avez pas amené la machine à Bumba?
Bon, ça, c'est une usine que la mission agricole chinoise a installée ici. Bon, je crois que quand Bumba aura l'occasion, aura la possibilité d'évacuer les riz vers Kinshasa, on pourra faire fonctionner cette usine.
Ok. Il y a une question d'un auditeur de Lubumbashi, il s'appelle Pierrot Camon. Il voudrait savoir si les riz de Bumba est consommé à Kinshasa et c'est à quel prix.
Bon, les riz de Bumba à l'époque étaient consommés, étaient même vraiment appréciés à Kinshasa. Mais actuellement, tel que je vous l'avais dit, ces riz n'arrivent presque plus.
Il arrive quand même parce qu'ils ont, produit, ils produisent en toute petite quantité. Moi, j'en ai ramené des Bumba, hein, je te vois à Bumba au mois de mai.
Mais à Kinshasa, en tout cas, la quantité n'est pas vraiment visible.
Elle n'est pas visible.
Mais le riz qu'on trouve ici à Kinshasa, le riz local, c'est le riz qui est produit dans le pool Malibu.
Et pour le moment, riz qui vient de l'extérieur, évidemment.
Les riz importés, quoi. Oui. Bon, puisque maintenant nous parlons du riz local.
Oui, oui, on parle du riz local. Et c'est à quel prix que.
Actuellement, le moment qui vend d'Angile, ils vendent 1 kilo à 210 francs.
Mais 200
210 francs
au kilo. Voilà.
Mais nous, dans le cadre de l'année internationale du riz, nous vendons les kilos à 195 francs. Ouais, donc les sacs revient à 9500.
Un sac fait combien de
50
kilos,
Et puis,
à combien?
À 9500 francs. C'est un prix promotionnel dans le cadre de l'année internationale du riz.
Ouais,
on le vend en Chili. D'ailleurs, hier, ceux qui étaient présents en Chili, je crois qu'ils ont vu, c'est le riz qui a été exposé là-bas.
Je reviens à cette question, madame. Vous dites qu'il y a une grande usine ici qui peut fonctionner. Malheureusement, la vallée rizicole, elle est de 8000 hectares, mais il n'y a que 2000 hectares qui sont exploités. Pourquoi les 6000 autres hectares ne sont pas exploités? Pourquoi vous ne demandez pas aux producteurs d'aller de ce côté-là?
Bon, il y a un problème d'aménagement. Vous voyez que le pool Malibu, c'est il y a le marécage. Hein, il faudrait qu'il y ait des aménagements pour arriver à maîtriser l'eau, à éviter les inondations. Donc, si les 2000 hectares qui sont exploités, c'est exploité parce qu'il y a eu des aménagements. Ces hectares ont été aménagés. Mais si nous obtenons, par exemple, des appuis de nos partenaires dans cette filière qui peuvent nous aménager les 6000 hectares qui restent, je crois qu'on pourra exploiter les 8000 hectares. Voilà. Donc c'est un problème d'aménagement hydro-agricole. Je crois qu'un producteur aussi l'avait soulevé. Si on arrivait à aménager les 8000 hectares, on va résoudre en tout cas même à 25% le problème. Disons le besoin de la ville de Kinshasa.
Et à ce moment-là, l'usine qui a été installée là-bas pourra fonctionner.
Oui, ça pourra fonctionner en tout cas. Mais périodiquement, pas
à temps plein.
À temps plein, oui.
Mais qu'est-ce qu'il faudra avoir comme espace à cultiver le riz pour que cette usine soit rentable?
Bon, si on arrivait à aménager le 8000 hectares, je crois qu'on pourrait arriver à faire fonctionner cette usine-là pendant les périodes de pointe. Parce que le riz, ce n'est pas pendant toute la période qu'on l'exploite. Et dans certains chantiers rizicoles, on fait des saisons. La saison A et la saison B. Par contre, dans d'autres chantiers, on ne fait qu'une seule saison.
Une seule saison.
Donc, pendant la campagne, pendant la saison d'exploitation, on peut faire fonctionner cette usine si on arrivait à aménager le 8000
hectares. Les 8000 hectares. Vous peut-être nous donner d'autres sites à travers la RDC où on produit le riz. On a parlé de Bumba, le poule Malébo à Kinshasa. Où est-ce qu'on produit encore le riz ici?
Bon, le riz dans les Kasaï orientales, dans les Sankuru. Et puis il y a Mbandaka, Mbandaka, Akikwit, Akikwit, il y a aussi une station plénière là-bas, on produit du riz. Et puis dans le nord Kivu.
Dans la Rosizi aussi, au sud Kivu, la plaine de la Rosizi. Dans le nord Kivu aussi, vers Mangouré, j'y parle et tout. J'en sais quelque chose parce que c'est ça qui m'a fait grandir. Boutembo, notamment par là aussi. Mais est-ce que vous avez un programme de relancer les productions de riz dans toutes ces stations?
Bon, ces stations existent.
Elles existent, mais,
actuellement, nous avons le problème de moyens. Nous avons le problème de moyens. On ne sait pas les appuyer. Actuellement, nous aidons ces paysans-là, les producteurs, à travers l'appui de la FAO.
De la FAO. C'est la FAO qui aide ces paysans à travers vous.
À travers,
Est-ce que vous pouvez peut-être nous donner un numéro d'appel du programme National Riz pour que peut-être il y a un producteur paysan qui nous écoute maintenant, il peut vous appeler pour avoir beaucoup plus d'explications et de détails.
Un numéro d'appel.
Un numéro de téléphone, une adresse physique, on va le retenir tout à l'heure à la sortie des studios.
Bon, vous pouvez prendre mon numéro.
Oui, c'est lequel?
081 508 15 78.
Voilà, Madame Lelo, je rappelle que vous êtes coordinatrice de la Journée internationale du riz. Je vous remercie d'avoir répondu à nos questions et vous souhaite plein succès dans la réalisation de vos projets.
Merci.
Merci beaucoup.
Okapi. Okapi en Mbandaka sur 103 FM.
Anniversaire douloureux aujourd'hui pour tous les journalistes du monde entier. Ça fait 6 ans jour pour jour que Norbert Zongo, notre confrère burkinabé, avait été assassiné. C'était le 13 décembre 1998. Norbert Zongo était directeur de publication de l'hebdomadaire le plus lu au Burkina. Il était également le président de la Société des éditeurs de la presse privée, à ce titre membre fondateur du Centre national de presse, qui porte aujourd'hui son nom, Centre national de presse Norbert Zongo. 6 ans après, un militaire inculpé dans l'assassinat de Norbert Zongo circule encore librement dans les rues du Burkina. Norbert Zongo disait « Le pire n'est pas la méchanceté des gens mauvais, mais le silence des gens bien. » Au Capi Action, on continue et dans quelques instants avec d'autres points de la vie comme elle va à travers la RDC.
Okapi. Okapi en Mbandaka sur 103 FM.
Okapi Action, deuxième partie, nous revoici pour la dernière heure de votre magazine. Nous allons changer de chapitre, passant de l'agriculture vers un autre aspect de la culture, c'est l'éducation. Notamment l'écriture chez nos petits frères, nos petites sœurs. Lorsque vous les rencontrez, par exemple, au milieu du cycle primaire, vous pouvez remarquer qu'il y a de sérieuses difficultés. Faites-le peut-être aujourd'hui. Essayez de le savoir. Demandez à cet enfant de vous écrire une phrase, même son nom. Ne soyez pas surpris s'il n'arrive pas à l'écrire correctement, parce que c'est une situation qui préoccupe les experts en la matière, surtout du domaine de l'éducation. Ils estiment aujourd'hui en RDC le taux moyen d'analphabétisme à 32%. Et si la déperdition scolaire s'avère être la cause majeure, il y a aussi d'autres causes telles que le manque d'infrastructures, manque de tableaux, des livres, même des bancs. Et puis il faut dire la crise socio-économique qui prévaut au pays. Et face à ces taux galopants d'analphabétisme, j'allais dire, le ministère des Affaires sociales voudrait mettre sur pied un programme de rattrapage pour 3 ans à l'intention des écoliers des classes primaires, au terme duquel l'élève passera un examen de fin d'études primaires et reprendra le cycle normal. Nous parlons du sujet avec Marcel Gombo qui s'est intéressé à la question. Marcel, bonjour.
Bonjour Walter.
Alors, est-ce que on peut savoir comment cela est perçu au niveau du ministère de l'enseignement primaire, secondaire et professionnel que le ministère des Affaires sociales met sur pied un tel programme?
Walter, il est vrai que le programme des enseignements du cycle tant primaire que secondaire relève du ministère de l'enseignement primaire, secondaire et professionnel. Tout autre ministère qui estime pouvoir jouer un pareil rôle, même dans un but social, doit le faire en collaboration avec ce ministère et qui est habilité à faire une étude d'évaluation.
Et alors, est-ce que quelque part, Marcel, ça ne laisse pas penser que le ministère de l'enseignement primaire et secondaire n'arrive pas à assumer pleinement son rôle?
Peut-être si l'État prenait réellement ses responsabilités, peut-être que tout serait différent. Mais en attendant, une telle initiative de la part du ministère des Affaires sociales ne peut qu'être la bienvenue, mais en condition d'y associer le ministère de l'enseignement primaire, secondaire et professionnel, comme je le disais tantôt. Et cela nous est expliqué par M. Joseph Massamaki, inspecteur principal de 10 ministères.
Les deux ministères ont chacun des attributions particulières. Le ministère de l'Éducation nationale d'une manière générale, mais de l'EPSP d'une manière particulière, a dans ses attributions l'enseignement au niveau maternel, primaire, secondaire, professionnel. Et à ce titre, il est le seul ministère qui est chargé de l'enseignement. Les autres ministères peuvent le faire, mais c'est à titre subsidiaire. Et chaque fois qu'ils le font, ils recourent toujours au ministère de l'EPSP en ce qui concerne le programme et l'évaluation. Si donc le ministère des Affaires sociales estime qu'elle peut, dans le cadre des attributions qui lui sont propres, récupérer les enfants, et si cette récupération se situe au niveau du cycle de l'enseignement, ce ministère devra absolument recourir à celui de l'enseignement primaire secondaire. Si cet enseignement de rattrapage a pour objet de compléter le cycle primaire, il n'y a que le ministère qui a l'enseignement primaire et secondaire dans ses attributions de le faire. Mais je pense que tous les ministères de notre gouvernement concourent au développement de la nation. Si donc il y a un ministère qui peut apporter un plus aux attributions d'un autre ministère, mais à condition que les actions soient conjuguées et qu'il y ait une conjugaison donc d'efforts de part et d'autre. Mais les attributions qui concernent l'enseignement sont dévolues au ministère qui a des PSP dans ses attributions. Donc les affaires sociales peuvent donner un plus en récupérant les enfants, mais ils ne peuvent pas organiser un cycle d'enseignement.
Voilà, l'inspecteur Massamba. Mais au-delà de, si vous voulez, cette guerre d'attribution entre les deux ministères, le point de vue de l'inspecteur Massamba, c'est que oui, il faut que les deux ministères travaillent ensemble, que ce dossier doit être fait au niveau interministériel. Il faudra que les choses soient bien clarifiées, on devra le savoir, et que un ministère arrive quand même à bien faire remplir complètement ses attributions avant d'aller dans les attributions d'un autre. Mais bon, soit, ad labierit, comme diraient les latins. Marcel, il y a une chose quand même qui est vraie, c'est que la qualité de notre enseignement laisse à désirer. Le cycle primaire, si on doit comparer l'enseignement comme une maison, le cycle maternel et primaire, c'est la fondation sur laquelle on érige tous les autres murs. Et que si déjà au départ de la fondation ça a été mal fait, eh bien cette maison ne sera pas solide, Marcel.
Voilà Walter, là également, si l'enseignement était gratuit, ne fût-ce que pour le cycle primaire, et si l'État s'occupait comme il se doit des enseignants et des infrastructures scolaires, l'enseignement ne serait pas autant décrié. De nos jours, Walter, combien d'enfants utilisent une plume et de l'encre pour se forger une belle écriture calligraphique, Walter?
Est-ce qu'on sait encore ce que signifie le buvard?
Ah voilà, encore c'est une question qu'il faut se poser.
Et l'encrier, voilà, la plume, etc. Mais même quand on écrit avec un stylo à billes, il faut regarder les écritures. On dirait... Je ne veux pas faire les commentaires, mais enfin, vous suivez mon regard. Bon, Marcel, il est quand même vrai que c'est vraiment terrible le fait que... On arrive à décerner des diplômes à des gens quand on voit les fêtes, la poudre qui est jetée sur les têtes, la grande fiesta dans les rues, je sais pas de quelle ville, pour dire t'as eu diplôme, mais il faut mettre à l'épreuve l'élève pour dire bon, alors on fait ce travail, et que malheureusement ça ne répond pas aux connaissances supposées avoir apprises. Et là il y a des gens, un psychologue me parlait des diplômes chefs en provision, fin des citations. Mais il y a les parents quand même qui s'inquiètent, que même même du fait qu'ils payent de l'argent pour scolariser leurs enfants et que c'est dommage que les enfants ne puissent pas bénéficier d'une formation de qualité.
Tout à fait, Walter, à l'exemple de ses parents qui ne peut que déplorer cet état des choses, je vous propose de l'écouter.
L'enseignement d'une manière générale est au rabais. Le rabais est dû à une mauvaise motivation ou une sous-motivation du personnel enseignant, un manque d'infrastructure et d'équipement, c'est ce qu'on appelle le matériel didactique. Il n'y a rien, il n'y a plus rien de tout ça. Et ensuite, l'enseignant étant sous-motivé, il monnaie les cotes, c'est tout à fait normal que les enfants se disent, bon, on n'a plus d'efforts à fournir, il suffit d'avoir un peu d'argent et on va réussir. C'est ce que nous voyons, c'est ce que nous apprenons pour les finalistes du secondaire, tandis qu'à l'époque, on se disait, il faut travailler pour réussir. Donc il faut étudier, il faut bien s'appliquer pour réussir. C'est ça la différence. Donc le système est au rabais à cause de plusieurs facteurs de tous ordres, économiques, sociaux et autres. L'enseignant, en grande partie, est victime de la destruction du tissu économique. L'enseignement ne pouvait qu'être en rabais parce que si l'enseignant était bien motivé, il ne peut pas s'exposer à la corruption et il ne peut pas accepter d'un élève ou d'un parent d'élève la corruption, ni donner des points de manière gratuite à un enfant juste pour l'aider à passer. Ça, ce n'est pas lui rendre service et lui causer du tort pour l'avenir. L'État est démissionnaire. Donc, dans toute chose, il n'y a pas de politique, il n'y a pas de programme d'action tendant à revaloriser l'enseignement, tendant à rehausser le niveau de l'enseignement. Il n'en existe pas jusqu'à présent.
Analyse d'un parent, sans commentaire, juste constater la véracité de sa critique sur le système. Mais bien, on suivra parce que le programme a été annoncé, le programme va être mis en chantier et on va rester sur la traîne pour regarder ce que ça aura eu et comme effet. Marcel Gombo, tout en soulignant que c'est le ministère des Affaires sociales qui initie ce programme et de l'autre côté aussi des problèmes sociaux, notamment les enfants de rue, les personnes avec handicap, autant de problèmes qui sont encore là, et bien le ministère des Affaires sociales apparemment c'est en train de devenir un Hercule pour faire autant de choses. Merci beaucoup, Marcel.
Merci, Walter. Au revoir à tous.
On reste sur cette question de l'enseignement. Partir du constat que l'enseignement est au rabais, ce sont les phrases d'un parent qui a déploré le système de l'enseignement primaire et secondaire. Nous partons du fait que l'enseignement maternel et primaire, c'est, si on devrait comparer ça à une maison, c'est la fondation sur laquelle s'érige les autres cycles. Pour commenter cette question, nous avons en ligne le professeur Manzombi. Professeur, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes docteur en pédagogie et
oui.
vous enseignez à l'ISP Gombe, vous êtes pédagogue.
Oui.
Vous avez suivi ce dossier avec notre confrère Marcel. Quelle est votre lecture du fait que aujourd'hui le ministère des Affaires sociales veut organiser des cours de rattrapage pour les élèves du primaire?
Ok, oui, c'est une très bonne initiative d'ailleurs que j'appuie et que j'encourage. Ça vient du climat général dans lequel nous vivons actuellement pour l'enseignement primaire. Et nous remarquons depuis un certain nombre d'années que les enfants qui sortent du cursus de la formation du primaire en sortent avec pas un meilleur bagage que lorsqu'ils sont entrés. Ils sont encore analphabètes à la fin du système d'enseignement. Et ça signifie qu'il faut un effort volontariste pour que ces enfants se réalphabétisent. Mais tout cela peut être expliqué par d'abord le climat général dans lequel nous vivons actuellement dans notre pays, et climat fait d'un laisser-aller, d'un découragement généralisé, parce que les conditions socio-économiques ne sont pas idéaux. Mais ce climat n'explique pas tout. Regardons spécifiquement le système d'enseignement et le système de formation de nos enfants ici dans notre pays. Il est caractérisé par un certain nombre d'avatars, de problèmes. Le premier problème, c'est l'idéal de jeunes. Pourquoi les jeunes étudient? Pourquoi les jeunes veulent s'alphabétiser? Jadis, il y a 25 ans, il y a 30 ans, quand les jeunes allaient à l'école, ils voulaient apprendre, c'était une espèce de promotion. et pour lui et pour toute la famille.
Mais aujourd'hui,
on voulait sortir de, en fait, du carcan, de la pauvreté dans laquelle nous étions.
Professeur Mazabi, est-ce que vous pensez que 25 ans après, aujourd'hui, les leitmotivs qui poussent les uns les autres à aller sur le banc de l'école ont changé?
Ont complètement changé. L'école est conçue actuellement comme une espèce de passage obligé. Les enfants vont à l'école parce que les parents les obligent à aller à l'école. Ils ne voient pas très bien pourquoi ils devraient aller à l'école. Surtout que tout autour d'eux, ceux qui réussissent, ceux qui sont bien, ne sont pas nécessairement ceux qui ont été à l'école.
À quoi faites-vous allusion, professeur?
Oui.
À quoi faites-vous allusion?
Oui. Je fais allusion au climat général dans lequel nous vivons.
C'est-à-dire?
Mais tout autour d'eux, les enfants voient. Hein, voit comment le niveau de vie est. Ce n'est pas le garçon, la jeune fille qui a étudié qui, en principe, réussit dans la vie. Il y a combien de diplômés après avoir fait leur cursus normal d'enseignement primaire, secondaire et supérieur se retrouvent au carreau, qui n'ont pas de travail, etc. Et qui sont encore obligés de vivre chez les parents. Et ainsi de suite. Ils voient cela, les enfants. Ils se demandent, je veux le dire en lingala, il y a un jour, un enfant qui m'a dit dans le quartier, est-ce que l'école est à finale? Est-ce que l'école, cela vous permet d'avoir une vie meilleure? Ils ne le croient pas. Ces enfants n'ont plus un idéal dans l'environnement qui puisse les pousser à étudier comme il se doit.
Professeur Manzambi, voilà. Dans ce cas, alors c'est un échec de l'État qui ouvre des écoles et qui ne s'est pas donné du travail aux gens qui ont été formés.
D'accord, c'est un échec de l'État, c'est un échec de la société. Le travail n'est pas un élément, une valeur qui a été mise au premier rang dans la formation des jeunes ici, chez nous. Le chômage est là et les jeunes voient. Et ils se demandent, est-ce que la scolarité peut leur permettre de sortir de cet état de non-utilisation, et ils n'ont pas l'impression que la société leur offre un spectacle valable.
Mais
c'est ça le problème.
Oui, professeur Manzambi, vous êtes pédagogue. L'école, l'enseignement, c'est incontournable pour le développement des sociétés aujourd'hui. Il faut revaloriser le rôle de l'enseignement. Comment, à votre avis, on devrait arriver à amener les élèves aujourd'hui à aimer l'école d'abord pour ce qu'ils représentent, en ce qu'il leur permet de s'épanouir, de grandir intellectuellement et spirituellement?
C'est tout, vraiment une redéfinition de l'enseignement. Hein. C'est d'abord essayer de ne plus continuer à imiter comme nous le faisons actuellement.
Qui est-ce qu'on imite?
L'enseignement est un mimétisme tout à fait total de ce que les Européens nous ont amené, etc. Nous sommes en train de suivre leur modèle. Hein? Bon, mais ça signifie qu'il faut redéfinir notre propre modèle à nous. Qu'est-ce que nous voulons que la jeunesse fasse de matériel éducatif que nous lui donnons à l'école? Voilà. Si ce matériel éducatif est accepté par les enfants, accepté par toute la société, est-ce que, à partir de là, qui va donner cet enseignement? Quel est le modèle de l'enseignant? Ça, c'est un autre problème. Quelle est la motivation qu'on va donner à l'enseignant pour que celui-ci soit intéressé par le système d'enseignement dans lequel nous sommes? L'enseignement est considéré par l'enseignant comme un simple passage obligé, et un simple, j'utilise une expression, en fait c'est une antichambre, pour chercher mieux ailleurs.
En attendant mieux, on enseigne.
Oui, en attendant mieux, voilà. Un petit peu, c'est l'antichambre quoi, hein. On veut aller dans la chambre du docteur après, mais avant on attend un petit peu et on passe son temps dans l'enseignement. On doit absolument cesser avec ce système-là. Si on ne le fait pas maintenant, nous allons vraiment payer le plus fort dans les années à venir.
Professeur Manzambi, lorsque vous parlez de la redéfinition de l'enseignement, est-ce que vous voudrez dire qu'on devrait redéfinir, recalibrer notre système d'enseignement en fonction de nos besoins du développement de la République démocratique du Congo?
Absolument, absolument. Je veux vous citer un pays qui ça va faire peut-être grincer certains, la Chine.
Oui.
Et maintenant le pays où tout le monde veut aller. Les Chinois ont pris le temps. Ils se sont arrêtés, ils se sont dit arrêtons-nous, mettons un système d'enseignement chinois qui forme un jeune homme chinois.
Et qui forme un jeune homme chinois pour faire quoi en Chine? Professeur Manzambi? Voilà, on a été coupé. Je pense que c'est malheureusement une catastrophe technique. Là, professeur Mazambi était en train de développer une très belle théorie. Il voulait faire une comparaison du système d'éducation en Chine par rapport à notre pays. Je rappelle quand même que nous étions sur une très très bonne voie dans nos débats. Il était question de redéfinir l'enseignement congolais en fonction des besoins du développement de la République démocratique du Congo. Quelle matière, quel enseignement, pour quel objectif spécifique? On va tenter peut-être tout à l'heure de retrouver le professeur Mazambi.
Okapi, le souffle du Congo. Okapi.
Oui, ah voilà, professeur Mazambi, nous avons eu une coupure par rapport au réseau. Vous étiez en train de comparer le système éducatif en Chine. Il faut reprendre à partir de là, professeur. Vous disiez que la Chine avait décidé de s'arrêter et d'adapter ce système d'enseignement par rapport à quoi?
Par rapport aux besoins, aux impératifs et à l'environnement de la société chinoise.
Mmh.
Ils sont arrivés à ainsi stabiliser leur système d'enseignement et faire de sorte que, à présent, c'est un des meilleurs systèmes pour une population au départ pauvre et qui a pu se stabiliser en Chine.
Mmh.
C'est ce que nous ne faisons pas, nous. Qu'est-ce que vous voulez, l'environnement actuel? Quel est le rêve de tout enfant à Kinshasa ici? C'est partir en Europe, partir ailleurs et ne pas rester ici au Congo. C'est dommage. Et notre système est un système, une espèce d'appendice qui est comme cela, rattaché à un système occidental, et les enfants veulent tous aller ailleurs et ne veulent pas s'incruster dans notre milieu. Nous devons redéfinir cela. Mais pour le faire, il faut que toute la société participe. Et pour le faire, il faut que l'enseignant soit motivé. Il faut améliorer au maximum les conditions de vie de l'enseignant.
Oui.
Et ça, le Congolais ne veut pas l'entendre parler. Ce n'est pas simplement par des petits séminaires que nous faisons, c'est très nécessaire. Mais songer à ce monsieur-là, d'abord le requalifier, le reformer, le rendre compétent, la compétence a beaucoup baissé, et motiver les enseignants, parce que regardez un petit peu, les enseignants qui sont aujourd'hui ont un certain âge. D'ici 5 ans, 10 ans, nous allons manquer d'enseignants parce que il y a une classe qui est là, qui va partir. On n'a pas formé le relais parce que les jeunes gens ne veulent plus faire de l'enseignement. C'est trop dur. Il n'y a pas de motivation. Il n'y a pas assez d'argent dans ce secteur-là.
Mmh. Professeur, ça va être ma dernière question.
Oui.
Je ne vais pas vous demander de détailler ou de me dire ici, avec nos auditeurs, ce qu'il faut faire pour réformer le système éducatif congolais en fonction de nos besoins. Nous savons qu'actuellement, la RDC, notre pays, a beaucoup de besoins, a besoin d'une élite, mais peut-être par priorité, quels sont les secteurs auxquels devrait répondre l'enseignement actuellement dans notre pays?
Oui, écoutez, je comprends bien votre question, je comprends bien le souci du coup, il y a beaucoup de priorités. Mais je vous assure, s'il y a une priorité, vraiment de priorité, c'est celui-là. Les pays qui ne l'ont pas compris vont payer le prix le plus cher. Celui-là accompagné à la santé, si nous ne le faisons pas aujourd'hui, nous le ferons plus tard avec des moyens encore beaucoup plus importants. Faisons-le tout de suite, mes chers amis. Si nous traînons, nous allons payer le prix le plus cher. Nous allons faire importer ici ce qu'on appelle les spécialistes venant d'autres pays qui auront l'air d'être nos petits-enfants, nos enfants, mais qui vous demanderont 1000 fois, 10 000 fois plus, et nous allons payer cela. Hein? Et nous allons payer en termes d'une société complètement désaxée.
Mm-hmm.
Vous voyez le phénomène des enfants qui sortent de l'enseignement primaire sans savoir écrire et lire, et le phénomène Chegué. C'est, entre autres, une des négligences que nous avons eues jusqu'à présent. L'enseignement a été négligé. Et chers amis, si nous ne comprenons pas cela aujourd'hui, nous le comprendrons un jour, mais ce sera tard. Mieux vaut maintenant que d'attendre encore quelques années.
Voilà, professeur Manzambi, que vos voeux se réalisent, que nous espérons que votre message est bien passé. Des Congolais de la diaspora vous ont entendu, ceux qui sont branchés maintenant sur notre radio, parce qu'ils nous écoutent en direct en Europe,
okay, merci beaucoup,
même à travers l'RDC.
Ceux qui sont aux rênes du pays pourront comprendre un petit peu les soucis que nous avons, nous pédagogues, aujourd'hui. Merci beaucoup.
Voilà, professeur Manzambi, merci beaucoup d'être intervenu. Moi, je suis Walter Moulondi, ça a été un réel plaisir de vous entendre. Espérons que vos voeux se réaliseront.
Ok, merci bien.
Capi Action, dernière minute de notre magazine, les 20 dernières minutes. Nous nous rendons dans l'est de la République démocratique du Congo, plus du côté du sud-est, je pense. Oui, on est à Kalemi. Le grand marché de la Lukuga est menacé par les eaux de pluie. Les marchands se plaignent du fait que les services de l'État ne cessent de percevoir différentes taxes. Cependant, les grosses pluies, les marchandises sont emportées. Toutes les canalisations d'eau sont bouchées, ce qui est à la base même d'abus de la destruction de ces marchés. Où vont ces taxes perçues au marché? À quoi ça sert? S'interrogent les marchands. On va chercher à le savoir avec notre confrère Fabien Kambinzi. Fabien Kambinzi, bonjour.
Bonjour Walter.
D'abord, pour tous les auditeurs qui nous écoutent, est-ce que vous pouvez nous situer le marché de la Lukuga à Kalemi?
Oui, Walter, tout d'abord, nous avons sur place ici à Kalemi quatre marchés bien connus. Nous avons le marché Katanga Kivu, marché de la Lukuga, marché Lutimba et marché Maendeleo, sans compter le petit marché sur les avenues. Eh bien, Walter, le marché de la Lukuga est situé à la rive droite de la rivière Lukuga, une rivière qui sépare en deux parties la ville de Kalemi. Ce marché est deuxième après le marché Katanga Kivu.
Mais voilà, et pour le moment Fabien, on va peut-être nous remettre dans cette ambiance de marché tel que ça se passe par là. On rapporte la détérioration de ce marché d'une part, de l'autre part les commerçants s'interrogent sur la destination des taxes perçues. Quel est le problème qui se pose exactement au marché de la Lukuga?
Oui, Walter, cette ambiance recueillie sous la pluie montre... que les vendeurs et vendeuses du grand marché de la Lukuga occupés à protéger leurs petits étalages en installant des sacs pour barrer les eaux, pour barrer le passage aux eaux de pluie.
Mais alors, Fabien, qu'est-ce qui fait que ce marché de la Lukuga soit délabré?
Oui, la principale canalisation d'eau du quartier Kitsuku est bouchée depuis bientôt 2 ans, Walter. Ce qui fait inonder même le marché de la Lukuga.
Mmh. Et vous nous avez dit tout à l'heure que les eaux de pluie inondent le marché de la Lukuga. Est-ce que vous avez noté quelques conséquences de ces inondations dans le marché?
Les conséquences, oui. Les eaux de pluie emportent les marchandises des commerçants. Les étalages sont détruits. Les commerçants s'arrangent eux-mêmes pour faire face à cette destruction du marché, d'où leur colère. Et c'est ainsi, Walter, qu'ils menacent même de ne plus payer les taxes de l'État.
C'est trop à dire de ne plus payer les taxes de l'État, parce que c'est une obligation citoyenne. D'ailleurs, c'est une obligation légale. Mais les autorités locales, au niveau de ce marché, que répondent-elles?
Oui, c'est une bonne question, Walter, de ne pas payer les taxes de l'État. Mais je vous propose d'écouter tout d'abord les réactions des commerçants.
Sisi tuko magumu sana kwa sababu mvua inaponyesha. Magumu ya kwanza tunaipata ni ile terashe imekwisha kujaa. Maji inashindwa kupita kuterashe. Inaingia moja kwa moja msoko. Yani inaforme kama vile riviere msoko. Inaamporte ma marchandise, inaenda kulukuka. Voilà ndio magumu tuko nayo.
Kila siku hapa tunalipa mataxi lakini hatujui kema kuta yetu yuko nafanya humo msoko ya hapa Lukuga. Tunafika mpaka na leo tena hapa hivi. Bana tuoblige sebe kutereka msoko. Tuanze kuuza masaki yetu siye venye kwa kutengenezesha soko. Na wakati leteko pali, sasa yule makuta yuko na kazi gani?
Fabien, on vient d'entendre ces marchands s'exprimer. Le vrai problème, c'est à quoi sont destinées les taxes que nous payons. C'est ce qu'il vient de dire. Est-ce que vous avez cherché à rencontrer les percepteurs de ces taxes? Que répondent-ils?
Oui, Walter, de son côté, le chef de collectivité, Cheferi Tumwe, a même lancé un appel aux services de l'État qui perçoivent les différentes taxes au marché de la Lukuga, qui est dans sa juridiction, de contribuer tous à la survie de ces marchés. On l'écoute, chef Tumbwe.
Nami kuna Angleterre, siki tuko kubwa sana. Najua kama soko iko kwa collectivité ya Tumbo. Nami ndio responsable wa collectivité. Nia yangu ni kusema kama tutafanya renyo na wafanyakazi wote wenye kulipisha mataksi mule kwa kuwa tutengeneza tupate kukinga soko yetu kwa ende vizuri. Ule mwenyewe atakatala kufuata ile mimi nitamwambia tutamwambia baraia bakiona ile bureau fulani na kwa kulipisha mule taksi ambayo ilikatala kutile nyili waelezea watawafukuza.
Fabien Kambinzi, peut-être un petit résumé de ce que le chef Tumbo vient de nous dire.
Fabien. Oui, Walter, le chef Tumwe vient d'expliquer pourquoi les commerçants du marché sont menacés par les différents services de l'État qui passent de temps en temps avec leurs petits sacs pour faire payer les taxes. Mais au moment où il y a des problèmes sérieux qui demandent le coup de main de la part de l'État, ces différents services de l'État ne font absolument rien. Alors, ils tirent même une attention à ces services de l'État que, une fois ils ne sont pas d'accord avec lui de donner le coup de main pour construire ces marchés, alors ils risquent de demander aux vendeurs de ces marchés de ne plus accepter de payer les taxes de l'État.
Fabien Kambinzi, les inondations ne sont pas les seuls problèmes ou catastrophes, si vous voulez, que connaît ce marché. On a appris il y a quelques mois que le marché de la Lukuga avait connu même des incendies.
Oui, pour un rappel, Walter, hein, dans une année, on a connu des incendies ici au marché de la Lukuga, et puis des fois aussi, le marché était emporté par les eaux de pluie.
Nous aurons un peu plus de détails sur la gestion des taxes et l'organisation de ce marché avec notre invité tout à l'heure. Ce sera le chef qu'on a entendu à un bout de temps. Avec lui, on va rentrer à profondeur sur qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il préconise faire. Pour l'instant, Fabien Kambinzi, nous vous remercions de nous avoir fourni ces informations, surtout d'avoir laissé parler des gens, j'allais dire, d'avoir laissé parler les marchands du marché de la Lukuga. Je vous souhaite de passer une excellente journée à Kalemie.
Merci Walter, à vous autant à Kinshasa.
Au revoir Fabien.
Au revoir.
Voilà, nous allons continuer ce magazine avec un peu plus de détails à présent, avec nos invités à Kalemie. Nous avons en ligne le chef Tumbwe, Mheshimiwa Hujambo.
Jambo, Mheshimiwa.
Kuna matatizo ya wale ambao wanafanya biashara katika soko ya Lukuga, wanapokuwa na haya matatizo wanajiuliza eti pato ambao hiyo mchango watu za kodi wanachukua wanaitumia namna gani, kwa sababu hawawezi kuwasaidia soko ya Lukuga iwe safi na iwafalie wote.
Asante bwana journalist, mimi ndio Sultani Mkubwa Tumbwe wa hapa Kalemie. Kufuatana na hilo nalizojua mambo ya soko kweli iko mkolektivite ya Tumbwe ambao inatafuta kuharibika. Na kama inatafuta kuharibika, mie mwenye kusema hapa nina uchungu pia, na wale wote wenye kulipisha mataksi mule wana uchungu, kwa sababu haitawezekana soko iharibike na sisi tukutana na macho. Nia yetu ni bwana journalist. Hivi siku ya ine, tuko na mkusanyiko na wale wote wenye kulipisha mataksi mule. Kwa kuwa tufanye mchango wa kuwa tuuze sima, afu tupikishe mabriki, ile mabriki iweze kujenga pale nafasi ambao iliweza Lukuta kuharibika, kwa kuwa maji sende ngambu ya soko ilisukua tu yende mufereji, yende yanukia Mulukuga, ndio ni yetu iko pale.
Sasa ni wafasiri wenzetu ambao kutusikiliza katika lugha ya Kiswahili. Je suis en direct depuis Kalemie avec le grand chef Tumbwe par rapport à ce problème, l'interrogation des marchands, savoir à quoi sont destinées les taxes qu'ils paient régulièrement. Le grand chef vient d'annoncer que jeudi il tiendra une réunion avec tous les percepteurs des taxes et ensemble ils vont décider de ce qu'ils doivent faire, et parmi les décisions, c'est notamment l'achat du ciment en vue de construire une canalisation pour éviter que les eaux se déversent dans le marché, mais plutôt que les eaux se déversent vers la rivière Lukuga. Mheshimiwa Sultani Tumbwe, sasa sijui aliko imetumwa tayari kwa wale watoza ushuru wote au kuna watu ambao bado hawajapata ile aliko?
Ndiyo, wale wote wa mataksi wote wenye kutumika, wenye kulipisha mataksi wote, na waita kusema kama tufanye renyo, na tutaita namba prezida ya marsi ya soko baone ile kazi yetu tutafanya, kwa kuwa nao watie roho mfasi kusema Sultani Tumbwe anakamata mpango mzuri wa kuepusha soko ishe kuharibika.
Na sisi mara kwanza kabisa isoka lukuga kushikwa na matatizo, yani kufurikiwa maji ya mvua, au kumeripotiwa siku zilizopita kwamba hata kuna maeneo fulani ambayo imeteketezwa na moto. Lakini licha nini kusubiri hadi leo tu ndio kuwe matatizo mengi ndio mchukua hatua nzuri kama hii ya kuwakusanyisha watu za ushuru na wafanyabiashara makusudi muweze kurekebisha soko hii?
Asante bwana tunalise, mambo ya Mungu ni mambo ya matata. Wakati Mungu anatenga, anatenga hautajua. Kufuatana na kadiri jinsi ninazungumza bwana, mpango ulikuwa tena mbele. Wakati wa soko ya kwanza ilungula, mimi sikuwa hapo, nilikuwa mkimbizi wa vita. Soko inakuwa kulungula sasa ni hapa mimi nafika tena, ndio bahati Monique ilikuwa kukamata memeto gari kuzima ile mambo ya masoko, tukatia ruhusa kusema kama hakuna tena mtu kutia nyasi. Inafaa wote wauze manjanja na nikafanya mwezi tatu bila kulipisha tax.
Ben voilà, j'ai demandé au chef Tumbwe pourquoi il fallait attendre maintenant, après avoir connu au moins deux fois d'incendie, deux fois d'inondation dans ce marché, pour prendre cette mesure-là, de rassembler les percepteurs de taxes et les autres. Le chef Tumbwe a répondu à disant que d'abord quand il y avait les incendies, à l'époque il n'était pas à Kalemi, lui il était déplacé de guerre, et qu'en son retour, il a ordonné qu'il n'y ait plus perception de taxes pendant une période de quelques mois, et que maintenant désormais c'est tout le monde qui doit construire des stands avec des tôles pour éviter des incendies, parce qu'en fait à l'époque c'était des stands qui étaient construits en paille. Mheshimiwa, sasa narudilia kwako, je vais lui poser une autre question à présent. Lakini unafikiri kwamba hatua hii ambayo mtaichukua ndio itasalimisha watu wote na matatizo ya mafuriko ya maji ya mvua au kuteketeza moto yote itakuwa imetatuliwa, kutakuwa tena shida kama hizi?
Asante bwana tunalise, kwa ile mpango tunakamata juu ya kukinga soko isiwe kuharibika juu ya mvua, naona kama mambo itaenda vizuri sana. Sababu maji yataingia tena msoko, tutafanya namna yetu yote ya kukinga soko, maji yende barabara kilitopa pala mkuga. Ni ile mpango utakuwa mzuri sana, kwa sababu ni kazi yetu inatubidi tufanye kwa nguvu sana.
Lakini unafikiri hii kazi ambayo mtaifanya inatakiwa mchango wa kiasi cha pesa ngapi?
Sasa sitajua kwa sababu tutafanya sibo terenyo, ile mpango tutatosha murenyo na njoo itakamata mpango, sio kama tutatosha nombre ngapi ya franc kwa kuuza ile saki ya sima.
Je, hatua ambayo mnaichukua ni nyinyi wenyewe kujitegemea pale Lukuga, au mnasaidiwa na mashirika mengine ambayo huenda kuwaunga mkono?
Hakuna, ni sisi wenyewe tu wenye kufanya ile kazi.
Lakini watu kando kando yako ambao umewafahamisha hatua unaotujulisha sasa na tunayoizungumzia hivi, watu karibu yako pembeni yako walionaje huu mpango?
Bejiko pembeni yangu kwa huu mpango tulikamata, wanafurahi sana kwa kuwa waone alama kama mambo itaenda namna gani, hivi kuradio kafi bata itangaza.
Voilà, je parlais avec le chef Tumbwe des chances d'aboutissement de ce projet. D'abord, il pense que ce sera une solution durable pour sauver définitivement le marché de la Lukuga des inondations et des incendies. Ensuite, que c'est une initiative locale, il n'y a pas d'appui extérieur, que c'est un projet communautaire qui est en train d'être monté au niveau des habitants et des usagers de ce marché de la Lukuga. Le chef Tumbwe ne sait pas encore quelle sera l'enveloppe qu'il faudra réunir en vue de reconstruire ce marché, et que le montant ne sortira qu'à l'issue des réunions qu'ils auront entre marchands et les usagers de cette route. Mwami Sultani Tumbwa, sijui kama katika mkutano mtazungumzia tu matatizo ya mafuriko ya maji ya mvua katika soko hii ya Lukuga, au kupinga sijui kuteketea moto, labda huenda mtazungumzia masuala mengine yanayohusu wakaji wa Lukuga.
Asante bwana tunalise, mule ndani ya renyo na njoo tutayua kusema kama mtakuwa ni maneno ngapi, lakini kitu kikubwa kabisa kiini ni maneno ya soko. Kwa kukinga soko ndio mambo itakuwa pale, kwa kukinga soko, kwa sababu isije kuharibika.
Huenda kuna watu wengine, wale watu za ushuru ambao wananyanyasa wafanyabiashara kuchukua hizi kodi na kwenda kuzitia mfukoni. Lakini ndio manunguniko watu wanajiuliza, hii kodi ambao mnakuja kututoza kila siku mnaiweka wapi, mnaifanya nini? Eje, tangu hii miezi walikuwa kichukua hizi pesa, walikuwa wanaziweka wapi na walikuwa wakitengeneza hii soko?
Asante bwana. Unajua wale wenye kulipisha mataksi, kila mtu mwenye kuwa na ile taksi yako na kazi yake ya ile makuta. Kila mtu yuko na kazi yake ya kuuza vitu fulani za kusaidia ile kazi ya leta.
Kwa mfano vitu gani?
Kwa kazi yake.
Kwa mfano?
Kuko baijene, baadhi banatumika na kazi ya kuuza madawa ya kutunza watu. Bei ya bambironewa na makazi yabo vile vile kolektivite nao na kazi yake kolektivite kwa na ile makuta banalipisha mataksi banauza mambayo kutenisa mabilalo makazi mbalimbali
wale watu ambao unasema wa environment si nafikiri kwamba hii ushuru wanachukua katika soko ya Lukuga lazima iwasaidie kwanza wale ambao wanatumia soko ya Lukuga wakiwa wajengea choo mle ndani wakileta usafi katika soko sio pesa ambazo zitaenda nje ya soko ya Lukuga
ndio kuko nani wese balisa kutengeneza mule ndani hiko wese hiko mule kuna lakato ni kufungua
wataifungua lini?
Sasa hivi siku kidogo hivi
labi unasema siku kidogo mheshimiwa lakini hatujua utupatie kabisa siku kamili
ndiyo mimi nina kuambia kama siku kidogo mjumakesho zema anaweza kufungua kufuatana na hali jinsi ya mvua ndio nzuri sana kwa kuwa isiye kuharibisha tena mara nyingine soko
je nataka kuuliza kuna maji ambayo yanatiririka humo katika soko watu watumie nani maji kawaida
sisikie mzuri bwana journalist
sijui kama kuna maji mule katika ndani ya soko kuna maji
maji ya mvua inakuyaka inaingia msoko na inapita haikai mule ndani hapana
na maji ya kunywa wale watu ambao wako katika soko wanatumia maji kutoka wapi
maji wanaenda wanachota kwa marobine
mheshimiwa shukrani sana asante Ok. Voilà, on était en train de passer en revue les derniers projets, si vous voulez, avec le chef Tumboué. Il essaie de justifier que certains percepteurs d'impôts utilisent les taxes pour notamment les services de la collectivité, les services d'hygiène à l'intérieur du marché. Évidemment, nous suivrons ce qui se passe dans ce marché. Nous vous remercions en tout cas infiniment, chef Tumboué. Merci beaucoup. Bonne journée à Kalemie. Okapi Action, c'est terminé pour aujourd'hui. Toute l'équipe des productions se réjouit de votre fidélité et vous donne rendez-vous demain 9h02 hors de Kinshasa pour une autre aventure dans la vie comme elle va à travers la République démocratique du Congo. Jean-Noël a fait la dernière partie de la mise en onde au micro. Il y avait Walter Molondi, Nathalie Motebangandou faisait la régie.